Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir et bienvenue à votre avis ce vendredi 15 octobre. Alors on vous donne la parole sur le cinéma africain avec l'ouverture demain samedi de la 27e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Alors le FESPACO va refermer ses portes le 23 lorsque le prix de l'étalon d'or de Yenenga récompense le meilleur film, le long métrage, donc sera décerné. L'occasion pour nous de faire l'état des lieux du cinéma africain, ses défis, les opportunités pour le continent et comment le rendre plus rayonnant. À la réalisation, Fatouma Kalala Alimassi, présentation Abdourahmadia, et avec moi ici en studio, Arzuma Compaoré, monsieur Touche-à-tout, mais surtout notre monsieur Tech et monsieur Cinéma. Bonsoir Arzuma.
Bonsoir Abdourahman.
Alors, 239 films venus d'une cinquantaine de pays, plus de 1100 candidats, finalement 239. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? C'est quand même un engouement.
Oui, c'est juste la concrétisation en fait de la place que le FESPACO a dans le paysage audiovisuel et cinématographique en Afrique et aussi dans le reste du monde. Mmh. Lorsque la dernière fois j'ai parlé avec le secrétaire général, M. Alex Moussa Sawadogo, il me disait que c'était un festival très spécial. Et en preuve, justement, ce que vous venez de dire, justement, plus de 1000 films qui ont été auditionnés. Il faut dire que le festival a été reporté. À la base, ça devait être en février. Mm-hmm. Donc, ce qui a permis à plus de films, en fait, de se préparer et d'être là.
Et justement, qu'est-ce que cela veut dire dans ce contexte de pandémie, dans ce contexte sécuritaire quand même? Et malgré cela, ils ont tenu à organiser le FESPACO cette année. Pour vous, c'est quel message?
C'est le festival de la résilience, c'est le festival du courage, c'est le festival de l'affirmation de la culture, de la prévalence de la culture sur tout le reste. Mmh. C'est aussi une façon, selon moi en tout cas, de dire si on s'accroche à notre culture, on reste nous-mêmes. Et c'est un peu ça le message que la plupart des cinéastes essaient de véhiculer à travers le film, que j'ai réussi dont j'ai pu voir la liste. Mmh. Et certains de ces films justement traitent de ces sujets-là, de justement du terrorisme, de toutes ces plaies qui minent en fait le continent.
Et on a l'Atlantique en ouverture.
En ouverture, exactement.
Mmh, qui est un sujet très actuel lié à l'immigration. Alors vous avez des films particuliers qui ont attiré votre attention?
Alors moi, oui, il y en a pas mal. Je pense que dans la compétition officielle, bien évidemment, je vais dire mon film coup de cœur, c'est le film de Philippe Lacote, La Nuit des Rois, Night of the Kings. C'est un film qui a déjà fait une très belle carrière, une très belle course depuis sa sortie. Ça parle justement de cette prison en Côte d'Ivoire où chaque soir, il y a un des détenus qui doit raconter une histoire. Mmh. Et le danger de quand on est sélectionné pour raconter cette histoire, c'est qu'à la fin de votre histoire, on vous tue.
Wow.
Donc c'est ça qui fait que c'est un peu, il y a seul piment, mais c'est un film très intéressant. Mmh. Donc un de mes films, ce serait cela. Je pense aussi au film Freda. Donc c'est une première pour Haïti qui est en compétition officielle.
Le long métrage.
Le long métrage Freda, donc qui est en compétition officielle au FESPACO pour la première fois.
Mmh. Alors on a vu le retour de grands noms du cinéma, notamment Mamad Saleh Haroun. Avec son film Lingui, mais également Abdelrahman Sissoko, le Mauritanien, qui sera le président du jury.
Tout à fait. Ils reviennent. Pour eux, c'est un peu le festival, c'est la maison. Ils sont à l'aise, ils connaissent bien Ouaga, ils connaissent bien la plupart de tous les cinéastes, tous les techniciens, et bon, ils se sentent chez eux. Et je pense aussi que le choix de Abdelrahman Sissoko pour être président du jury est assez révélateur, en fait, de cette nouvelle dynamique que ce nouveau directeur, donc le nouveau secrétaire général du FESPACO, essaie d'insuffler au festival. Un festival festival qui, il faut reconnaître, hein, depuis un certain nombre d'années, bat un peu de l'aile. Mmh. Il y a beaucoup de problèmes, on se plaint chaque fois. C'est vraiment un festival que les cinéastes africains portent sur le cœur, mais qui n'hésitent pas à critiquer parce qu'il y a beaucoup de... Il y a, dans le passé, en tout cas, il y a eu beaucoup de problèmes.
Bon, on pourra en revenir un peu et voir... quelles sont les perspectives pour cette année. Le temps de prendre notre premier auditeur, Ben Benoît, bonsoir.
Bonsoir Arum, bonsoir à tous les auditeurs de la radio du monde.
Alors, vous nous appelez de Kinshasa, et alors vous, pour parler un peu de la RDC, vous semblez blâmer le ministère de la Culture pour le manque, disons, de dynamisme du cinéma dans votre pays, si j'ai bien compris votre commentaire.
Oui, c'est dans ce sens-là. En RDC, le cinéma n'a pas vraiment d'ampleur. Nous avons que le théâtre des rigolos. C'est ce qui existe ici. Si vous arrivez à demander mais passer avec des micros malades, vous verrez qu'il n'y a que des saïsaï, il y a des videlois et que sais-je, qui font que du théâtre, des rigolos. Mais quant au cinéma, en tant qu'un cinématographique, c'est vraiment compliqué. Vous voyez, nous venons de saluer la présence d'un passage de Mutombo Dikembe dans Prince à New York 2. Vous voyez que c'est tous les Congolais qui en parlent.
Et c'est une fierté, hein.
Notre ministère, oui, notre ministère de Culture et Arts a de failles sur ce plan-là. On ne connaît pas sur quel est son rôle, comment il arrive à penser le budget qu'on arrive à louer à ce ministère. Ça part où? Il fait avec ça quoi? Bon, on se demande plus sur cela. Et
d'accord.
En fait, ce qui arrive aussi à pousser les Congolais à ne plus s'impliquer beaucoup plus dans le cinématographie, c'est par rapport au manque de producteurs. Ici, on n'a pas de producteurs. Même nos musiciens ici ne sont pas produits par les Congolais.
Alors, restez en ligne. Nous avons Arzuma avec nous qui connaît bien le cinéma africain. Arzuma, des commentaires sur, disons, le diagnostic de Ben Benoît.
Ouais, bon, je crois que je vais un peu abonder dans son sens. C'est vrai que la plupart des gouvernements, en tout cas, on a l'impression que la culture, quelque part, reste le parent pauvre. On est toujours un peu laissé de côté. Et l'opportunité que cela représente, effectivement, on a l'impression que ce n'est pas perçu de la même manière.
D'accord.
Voilà, par les gouvernements. Et donc, quelque part, je pense que ce qu'il dit est un peu vrai. Il y a un problème d'éducation en RDC. On n'a pas assez d'écoles. Je ne pense pas qu'il y ait une école officielle de formation en cinéaste.
En cinéaste, d'accord. Alors, merci beaucoup. Nous allons rester dans la région. Au Tchad, nous avons Todiam, n'est-ce pas, depuis N'Djamena. Todiam, bonsoir.
Oui, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
Oui, allez-y, on vous écoute.
Merci. Parler de la cinématographie ici en Afrique, je crois que d'abord, les Africains ne veulent pas valoriser leur culture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas reconnu mondialement. Et il y a aussi un effort qui se fait quelque part par certains artistes, par certains amoureux de la culture. Mm-hmm. Mais en réalité, nos chefs d'État africains ne pensent pas vraiment pour aider ces gens-là. Ce qui est bizarre, des fois, on nomme les gens par affinité. Ceux qui ne maîtrisent même pas les domaines, c'est eux-là qui sont là et ne connaissent pratiquement rien à faire dans ce domaine. Et ça fait que les choses n'avancent plus. Alors, s'il faut maintenant que les choses prennent vraiment de l'envol, que le développement de la culture passe, les États africains, ou soit chaque pays doit valoriser la culture, valoriser les artistes, valoriser toute œuvre dans ce domaine. Et en valorisant, je crois que nous allons arriver un jour où le monde va parler de nous, le monde va parler de l'Afrique. Ça fait qu'aujourd'hui, tout ce qu'on appelle la culture africaine est loin d'être même apprécié au vu du monde. Alors c'est simplement parce qu'aujourd'hui, nous négligeons même trop. Ici en Afrique, on se néglige trop. Même si on fait un effort, il y a ce qu'on nous qu'on se soutient les uns les autres. Des fois, on regarde comme ça, des fois, on rit, on sourit, et puis après, on laisse tomber. Alors que c'est des bonnes œuvres, il est question à ce qu'on alimente un peu, puis ça reste comme quelque chose d'important pour les autres.
D'accord.
Alors, j'interpelle maintenant les Africains à se donner vraiment au travail et que nos chefs d'État, tous ceux qui nous gouvernent, prennent vraiment le temps de mettre les gens à la place qu'il faut afin d'évoluer la culture africaine avancée.
Merci beaucoup. En tout cas, heureusement, ce ne sont pas les compétences qui manquent. Hein.
Ce ne sont pas les compétences qui manquent. Et peut-être pour rebondir un peu sur ce qu'il disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas quelque chose qui est fait, mais selon moi, en tout cas, le vrai problème, il va un peu au-delà de ça. Il ne s'agit pas seulement de donner l'argent ou de mettre les moyens. Il faut aussi qu'on développe ou qu'on réinvente en fait une façon de consommer nos productions culturelles. Parce que la manière comment on consomme nos productions culturelles en Afrique, pour nous, c'est un acquis. Pour
la consommation de produits,
des produits, voilà.
On nous dit, par exemple, en Afrique, il y a une salle de cinéma pour 787 000 personnes, mais le contexte actuel avec la digitalisation, est-ce que c'est forcément une mauvaise chose, l'absence de salle de cinéma?
Non, je pense que en fait, le contexte, comme vous dites, est venu en fait donner une solution ou un début de solution. C'est quelque chose qui était déjà plus ou moins exploré, ailleurs dans le reste du monde. Maintenant, en Afrique, on se rend compte qu'on peut aussi maximiser justement sur ces productions digitales, donc le numérique en l'occurrence, et comment mettre à profit justement les différentes productions des uns et des autres pour que, au lieu que les gens se déplacent vers les salles de ciné, mais que aussi les films et les productions rejoignent les gens chez eux, dans leur poche.
D'accord, Azuma. Alors on a, je crois, Alphonse Mbouaki à Kinshasa. Alphonse, bonsoir.
Bonsoir, Abdourahman.
Bonsoir.
Moi, je pense que tout a été dit. Ouais.
Allez-y.
Je peux continuer?
Oui, oui.
Ah, moi, je pense que les États doivent être Ils doivent impulser les gens, surtout les privés. Parce que souvent, nous, Africains, nous sommes focalisés à investir dans les minéraux, dans les foot, dans la musique. Et pourtant, dans le tourisme, on parle actuellement de l'industrie du tourisme. On regarde souvent ce domaine-là parce que ça génère des recettes. On sent que d'autres domaines comme celui du cinéma n'étaient pas... qu'on ait des recettes, des revenus à nos pays. Donc, quand nous regardons les Hollywood, c'est une industrie cinématographique qui profite aussi à l'État, hein, lorsqu'on paye les dépôts. Aujourd'hui, on voit en Hollywood, qui est l'industrie qui prend de l'ampleur au Nigeria, ce film est monté sur les standards international. Et donc, je pense que les États doivent être des modèles, des impulsaires pour pouvoir contaminer les privés à investir dans ce domaine. Parce que si ça devient industriel, ça peut apporter des bénéfices à l'État. Alors, comment ça peut aller se développer lorsqu'on crée des écoles, en Afrique, il n'y en a pas vraiment, écoles pour la formation des acteurs, formation des réalisateurs, des producteurs, et ça va susciter, lorsqu'on crée des écoles, ça va susciter des ambitions, hein. Déjà les gens vont aller dans ces écoles, ça va susciter non seulement des ambitions, mais des vocations.
D'accord.
Donc, je pense
merci.
Que s'il y a des vocations, des ambitions.
D'accord. Merci beaucoup. Alors, Alors, quand on parle de l'État, souvent, mais l'État peut peut-être mettre en place le cadre, créer le cadre, mais en fait, les investissements, par exemple, ce sont les privés.
Ce sont les privés et les privés nationaux. C'est un peu mon cri de cœur aussi, c'est que justement les opérateurs économiques s'intéressent au cinéma de plus en plus. Je vais prendre un exemple très, très, très banal. Ces 10 dernières années, l'industrie musicale a vraiment fait de grands efforts et maintenant on a des artistes, musiciens qui arrivent à vivre de leur talent, de leur art, beaucoup plus que dans le passé. Mais du côté du cinéma, c'est toujours difficile. C'est assez lent, en fait, à venir. Et donc, c'est quelque chose dont on devrait pouvoir s'inspirer et voir comment, effectivement, on peut mettre des cadres où les investisseurs locaux peuvent injecter de l'argent et mettre aussi un peu plus de foi. Parce que c'est vrai que c'est un domaine, bon, voilà, on ne sait jamais comment ça va marcher, mais si on s'y essaie deux ou trois fois, on comprend, on peut créer une industrie, créer un marché, et de là, les choses peuvent s'améliorer.
Alors, nous avons un auditeur, justement, du Burkina, qui est en ce moment la capitale du cinéma africain. Charles, bonsoir.
Oui, bonsoir à vous, et bonsoir à votre invité.
Merci. Mon invité, Arzuma Compaoré. D'accord. Alors, allez-y. On vous écoute.
Ok. Et moi j'ai un peu, je vais critiquer c'est-à-dire les dirigeants jusqu'à au réalisateur. Parce que moi j'ai tendance à croire que nous avons tendance à tricher. Soutenir les plus burkinabés, les ingénieurs, les barres. On a c'est ce qu'on voit dans et puis bon, et nous là dans les films de Julien. Parce que nous aussi, nous avons le coupé. Moi, je préfère regarder les films de Sinata Keïta, les anciens films de Sinata Keïta, avec ce qui a réalisé Pierre Sonambo et Papa Wemba. Moi, je préfère regarder ces genres de films. Parce que là-bas, il n'y a pas de scénario. Par exemple, quand on fait les films de Julien, les Nigériens. Par exemple, c'est des films que nous regardons dans le village. Voilà, avec ça, comment voulez-vous que nous, on va aimer les films africains? On ne peut pas aimer parce qu'on a dit, on sait ce qui va se passer. Il y a un film aussi qui se passe actuellement au Sénégal. C'est presque les scénarios brésiliens et américains. Maintenant, là, ici, bon, je vais parler encore de la relation du Festaco du Grand Passé. C'est le Festaco-là, c'est au bout de Tawarach, sans ça. Les gens, si vous partez à Koudoubou, même à 120 km de Ouagadougou, mon village, personne ne sait qu'il y a Festaco. Maintenant, c'est un apport de Festaco qu'on doit commencer à faire diffuser les films dans les provinces. Moi, je crois qu'on doit faire mieux que ça.
D'accord, merci.
Comme on dit,
merci, Charles.
C'est la capitale du cinéma. Vraiment, on doit sentir vraiment que le Grand Passé, c'est la capitale du cinéma. C'est comme un pays qui produit du café. Or, la population n'a pas du chocolat à manger.
D'accord. Voilà. Alors, je vais demander à Arzuma de réagir. On a deux auditeurs qui attendent. Mais Arzuma, votre réaction?
En fait, je suis partiellement d'accord avec lui. Je pense qu'effectivement, on aime nous consommer nos propres images. Ça, c'est un fait. La difficulté, c'est souvent justement d'attirer tout le monde. Et le contexte actuel ne facilite pas forcément qu'au Burkina Faso, par exemple, on puisse donner la plus grande visibilité comme ils le souhaitent. Mais il faut dire que les choses, pendant le FESPACO, justement, sont faites exprès pour que ce soit décentralisé au maximum. C'est vrai que ce n'est que 10 jours.
Il y a des projections en dehors de Ouaga.
Il y a des projections en dehors de Ouaga. Il y a des projections qui se font dans les villages. Et au niveau de la télévision nationale, il y a un effort particulier qui est fait pour diffuser des films africains pendant toute cette période. Donc c'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais c'est un début.
D'accord. Alors, nous avons Oumarou depuis le Niger. Oumarou, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, on vous écoute. Vous dites que le cinéma au Niger est toujours fixe. Expliquez-nous un peu.
Il n'y a même pas de cinématographie au Niger depuis la disparition de Kouté. En Afrique francophone, sauf le Burkina et la Côte d'Ivoire, qui ont la vraie cinématographie. Au Niger, on a seulement des dessins de souris. Même la télévision nationale ne couvre même pas le Niger tout entier. À plus forte raison, la cinéma. Et il y a ce que les Africains n'ont pas compris. Une fois qu'ils ont fait le cinéma, ils devraient les traduire en langue, à toutes les langues qui se trouvent dans le monde. ça va les permettre de, d'avoir la valeur de leur cinématographie. Mais chaque fois, on passe en armement ou bien en ça, en doula, est-ce que quelqu'un qui est de la Russie ou bien qui est de l'Amérique, il comprend doula ou bien Aoussa?
Ouais, très intéressant, Oumarou.
Ça, c'est les moyens qu'il faut avoir pour changer ça. Une fois que, même si ça, ce qu'ils font a un moyen qui peut changer la mentalité des gens, ou bien qui peut instruire les gens s'ils ne comprennent pas la langue, c'est zéro.
D'accord, merci beaucoup Oumarou. Nous allons à Bujumbura, nous avons Anissé en ligne. Anissé, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, on vous écoute, Anissé.
L'industrie du cinéma est un sujet traité en général de manière réaliste, mais dans le cadre de la crise. On a donné un trait pour les varas et puis les victimes pour l'art. Il conduit souvent de ne parler que de l'aspect créatif et culturel. En oubliant les entreprises de la filière qui ont permis l'émergence, la mise en œuvre, puis la diffusion de cet art. Derrière l'indépendance entre la création cinématographique et son industrie, sauf pour ça, son sens essentiel à leur existence, l'île ne pouvait durablement exister sans autre. L'Afrique offre une probable frustration tant pour des motifs de valorisation symbolique nationale, quels outils convoqués pour attester une autonomie culturelle des films et les réalisations.
D'accord.
On fait l'objet de l'essentiel de publication d'ouvrages. Il est de dire qu'il n'y a pas de marché sans marchand. La crise de la production est opérée avec la fermeture des salles de cinéma de nombreux pays.
D'accord.
Si le marché primaire du cinéma est celui des stars et resté monopolistique, car la décision d'une image animée pour ça en Afrique.
D'accord, merci beaucoup, Anissé.
Le marché cinématographique.
On va essayer. Merci beaucoup, Anissé. On a peut-être moins de deux minutes. Arzuma, notre auditeur du Niger a évoqué la langue, la diffusion dans d'autres langues. On voit quand même qu'il y a des efforts qui sont faits, n'est-ce pas?
Il y a de grands efforts qui sont faits. Et ça reste quand même une grande difficulté parce que le dilemme, c'est un peu là en tant que créateur. Est-ce que vous voulez faire un film, comme on dit, commercial? Quand on dit commercial, c'est-à-dire vous mettez l'accent surtout sur tous ces aspects, donc il faut vous assurer qu'à la fin de la chaîne, vous allez pouvoir distribuer ça dans toutes ces zones-là. Est-ce que ces zones, elles ont le quoi recevoir vos films? Donc c'est un peu plus complexe que juste la volonté. C'est vrai que les gens, ils veulent faire, ils veulent voir des films. On a des films qui sont par choix justement artistiques en langue, par exemple au niveau des Oscars, par exemple à Hollywood, la compétition internationale, vous avez besoin d'avoir en fait 50% qui soit en langue différente que l'anglais. Donc ça fait que ça donne un peu plus de place, de visibilité aux langues. Mais du coup, si on fait du cinéma d'auteur, un cinéma qui n'est pas forcément, où on ne s'intéresse pas forcément en fait aux recettes, mais on veut faire un cinéma qui intéresse les gens, où on touche les gens dans leur langue, dans leur culture profonde, on n'a pas forcément les armes nécessaires pour attaquer le marché international.
Alors rapidement, en 30 secondes, un des auditeurs a également évoqué les séries. Mais c'est souvent aussi jusqu'où on peut aller. Il y a des sujets un peu sensibles. Si je prends l'exemple du Sénégal avec la fameuse série Maîtresse d'un homme marié, la sexualité, bien que ce soit très populaire, on l'a vu, mais il y a toujours débat.
Mais je pense
c'est
que
quand même une opportunité pour le cinéma. Quand même.
C'est une opportunité pour le cinéma et c'est quelque part une vitrine de la société. C'est la société qui évolue. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les téléphones sont du cinéma. C'est là que les gens vont puiser leur contenu cinématographique, entre guillemets. Il y a 10 ans, on n'avait pas la même possibilité de se distraire. On allait au cinéma parce que voilà, c'était plus ou moins le seul endroit. Aujourd'hui, sur votre téléphone portable, vous avez voilà, toutes sortes de cinéma qui se dérivent de plusieurs formes, des petits sketchs, etc. Donc aujourd'hui, on change un peu. Mais rapidement, il faut rappeler que les gens aussi sachent que l'UNESCO et Netflix viennent de signer un partenariat qui va permettre aux jeunes réalisateurs africains de parler de leur histoire.
Voilà. Donc, merci. On y reviendra. Merci beaucoup, Azuma. Merci à Fatouma qui était à la mise en onde. Abdourahmane Dia au micro. Restez en compagnie des programmes de VOA Afrique. Et voilà.